Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali.
C'est donc lundi 26 juin qu'Olivia Chow aura été élue maire de Toronto pour les 4 prochaines années. Rudy Chaban, rédacteur en chef de ONFR+, a répondu à plusieurs de nos questions pour mieux comprendre le programme de la nouvelle élue, ainsi que ses promesses faites aux francophones. Mais avant d'avoir été élue ce lundi soir, les citoyens de la ville ont défilé pour donner leur voix toute la journée dans les bureaux de vote de la ville. Parmi eux, deux jeunes francophones, un frère et une sœur, témoignent de l'intérêt particulièrement élevé pour cette élection municipale et témoignent également de leur centre d'intérêt.
J'ai 19 ans et je vais à l'Université de Montréal pour biochimie et médecine moléculaire.
J'ai 21 ans et j'y vais à l'Université d'Ottawa pour la science politique et l'anglais.
On habite juste sur le coin. Genre, on est de retour pour l'été, mais en actuel, on habite à Montréal et à Ottawa.
J'ai regardé un peu avec... J'ai un peu fait ma recherche après avoir discuté avec les amis, mais j'ai aussi regardé aux 3 candidats qui sont le plus... qui ont le plus de chances à gagner, et j'ai fait un peu la recherche sur tous les 3 et j'ai fait ma décision sur ça en fait.
Moi, je me suis surtout fiée à genre des gens et à genre mon frère, car il sait qu'il est vraiment intéressé dans la politique et il est intelligent, genre il étudie la science politique. Alors dans mon point de vue, je vois que il peut faire une bonne décision dans ce genre d'affaires.
Je m'intéresse surtout au support francophone. C'est une des raisons que j'y vais à l'Université d'Ottawa, parce qu'ils ont un bon programme francophone là-bas. Alors je vais jamais perdre mon français. Mais il y a définitivement des priorités avant cela.
Ouais, être bilingue et garder son français, c'est très important pour moi. C'est pourquoi je suis allée étudier à l'Université de Montréal, car c'est tout en français. Et au Canada, il n'y a pas grand opportunité pour garder son français et améliorer. Mais ce n'est pas le premier truc que je regarde. Je crois que la santé de la communauté, c'est très important en premier. Mais garder la langue française, nous sommes... genre un pays bilingue, et c'est important de garder cette identité.
Moi, ce que je retiens de cette élection...
Rudy Chaban, rédacteur en chef ONFR+.
Une petite victoire pour le taux de participation, parce que 40% des électeurs qui sont déplacés aux urnes, c'est beaucoup mieux que dans le précédent scrutin, il y a 8 mois, où on était à 30%, c'était vraiment un plancher. Donc l'abstention a reculé, c'est quand même une petite victoire pour la démocratie locale. On sait que les municipales, c'est l'échelon le moins passionnant pour les électeurs, alors que c'est ce qui touche le plus leur quotidien. Puis l'autre chose qui est intéressante à noter, c'est un virage à gauche et un virage féminin. À gauche, parce que Toronto était gouverné depuis des années à droite ou au centre-droit, notamment sous le long règne de John Tory. Et puis féminin, parce que là, c'est la première fois depuis 27 ans qu'on a une femme qui accède aux commandes de la ville. Et finalement, les deux plus grandes villes du pays, Toronto et Montréal, sont gouvernées par des femmes. C'est quand même un symbole intéressant à noter.
Effectivement, parmi les 102 candidats, ce sont deux femmes qui ont obtenu le plus de votes parmi les citoyens de la ville. Pour couvrir l'événement, Rudy Chaban avait choisi d'être sur place afin de saisir l'ambiance lors de l'annonce des résultats.
Eh bien, Marine, hier, on était au quartier général de la vainqueur. C'était très festif, mais on sentait une certaine fébrilité à un moment donné de la soirée quand Anna Bailao a pris momentanément la course à la mairie. Elle a pris la course en tête. Et puis, on a vu qu'elle était vraiment la seule véritablement à menacer Madame Chow tout au long de la soirée. Mais finalement, une victoire quand même devant, plus serrée que prévu, mais une victoire devant pour Madame Chow. Et puis derrière, ni Sanders ni les autres candidats n'ont pu vraiment rivaliser, malgré le soutien que Doug Ford avait apporté justement à Sanders, l'ex-chef de la police de Toronto.
Et donc là, les prochaines journées, ça va être un peu la passation. Elle prend pas tout de suite le poste de maire, mais selon toi, quelles sont les prochaines, enfin en tout cas les premières mesures auxquelles elle va devoir s'atteler?
Ben, oui, là, il va y avoir une transition. Jusqu'ici, l'intérim était assuré par Jennifer McKelvey. Donc là, il va y avoir une transition avant qu'elle arrive à la tête de la municipalité. Puis, je pense que son premier défi, ça sera bien sûr le logement, parce que c'est vraiment ce qui a dominé la campagne. Il y a eu vraiment une attente des gens envers le logement. Puis, on est dans une crise monumentale en termes d'abordabilité, de manque d'unité, puis aussi d'itinérance qui atteint des niveaux vraiment alarmants. Donc, je pense que ça va être son premier grand chantier. Elle a promis 25 000 habitations à loyer contrôlé sur des terrains de la ville notamment. Donc je pense que là, ça va être la grosse attente. Puis elle va devoir poser des gestes là-dessus. Puis aussi en transport, on a vu qu'en plus on est dans un contexte climatique difficile. Donc comment dire aux Torontois d'utiliser moins leurs voitures si ni les pistes cyclables, ni les autobus, ni les métros ne sont soit fiables, soit sécuritaires. Ça va être vraiment un des enjeux aussi à régler.
On a pas mal parlé du soutien qui était nécessaire à avoir à la mairie quand il s'agit de passer des textes. Est-ce que tu penses qu'Olivia Chaud, elle a assez de soutien au conseil municipal pour s'assurer des votes nécessaires quand elle en aura besoin? Est-ce que tu connais un peu le balancier à l'intérieur?
Ben ça, c'est une très bonne question. Ça va être une des choses à surveiller parce que sa capacité à s'entendre avec le conseil municipal, ça va être très intéressant parce qu'elle arrive en cours de mandat, elle succède à John Tory, puis là, ses premiers jours vont être déterminants dans sa capacité à démontrer qu'elle peut répondre aux attentes et puis s'entendre avec le reste de la municipalité. Puis faut pas oublier aussi qu'il y a autre chose qu'il va falloir surveiller. En termes de rapport de force, c'est aussi celui qu'elle va entretenir avec le Premier ministre Doug Ford, parce qu'on sait que beaucoup de programmes dépendent du niveau provincial et que idéologiquement, Olivia Chow et Doug Ford sont vraiment aux antipodes.
Ouais, donc ça peut parfois freiner probablement certaines des choses qu'elle voudra faire, quoi, cette opposition.
Ouais, ouais.
Avant d'entrer sur le sujet de la francophonie, moi je voulais aussi savoir, il y a une nouvelle possibilité pour les maires des grandes villes, c'est la capacité d'embaucher, enfin ils ont un peu des super pouvoirs, notamment la capacité d'embaucher ou de licencier des cadres supérieurs. Est-ce que on sait si ça a un impact au quotidien pour nous, ou c'est des choses assez minimes en termes de politique, ces nominations à ces postes de cadres supérieurs?
Il y a deux niveaux de lecture. Déjà, ça pourrait avoir un impact si elle les utilise, ce qui n'est pas du tout gagné. Elle sait quand même, elle a eu des propos sur ses super pouvoirs parfois critiques, donc c'est pas du tout dit qu'elle y recourt ou qu'elle puisse peut-être y recourir en partie. Ce sont beaucoup une grande partie de ses pouvoirs sont au niveau municipal, au niveau aussi de la fonction publique. Tu as cité le fait de pouvoir embaucher, licencier des cadres de la haute fonction. Donc ça a peut-être pas des répercussions sur notre quotidien, mais ça pourrait aussi accélérer certains rouages. Encore faut-il qu'elle s'en serve.
Merci pour ces précisions. Et donc, sur la francophonie, elle a effectivement parlé de plusieurs institutions qu'elle pourrait soutenir ou relancer, comme la Maison de la francophonie. Est-ce qu'il y en a certaines dont toi, tu penses que c'est des choses réalisables, ou ça a surtout été des promesses de campagne?
Alors, très intéressant. Un peu plus tôt, en fin de campagne, ONFR est allé justement sonder les différents candidats. Pour rien te cacher, on a eu que des réponses très vagues. On a dû relancer pour avoir des réponses très précises qu'on a finalement obtenues. Puis en tout cas, pour Olivia Chow, puisque c'est maintenant ce qui nous intéresse, il y a trois choses qui nous ont intéressés. Une volonté d'accroître la communication en français au sein de la mairie, ce qui est une demande de très longue date de la communauté. Son prédécesseur John Tory avait tenu exactement le même discours, et puis finalement ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc ça va être à surveiller. Puis le comité, il y a un comité aux affaires francophones à Toronto. On va voir si justement le comité va tenir la nouvelle mairesse comptable de cet engagement qui reste de toute façon flou. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'elle s'est dit qu'elle voulait quand même collaborer, en tout cas insister auprès des différents paliers de gouvernement pour obtenir des programmes en francophonie, faire en sorte que les institutions se portent bien et soient créées s'il le faut. Et on pense tout de suite à la Maison de la francophonie, qui est un projet qui devait être financé par le gouvernement fédéral. Il va falloir voir si effectivement, Olivia Shaw va dans ce sens, confirme ce qu'elle dit et ses engagements, et si effectivement elle va talonner le gouvernement fédéral ou non sur le dossier de la Maison de la Francophonie qui n'a toujours pas vu le jour. Puis l'autre chose, c'est le commissariat. On a évoqué aussi un commissariat de la langue française, en tout cas un office qui permettrait éventuellement de contrôler aussi les progrès réalisés sur les services en français, entre autres, et puis sur la francophonie en ville. Ça aussi, ça a été évoqué, et puis je pense qu'on est tous un petit peu curieux de savoir si c'est une promesse en l'air ou si ça va être quelque chose de réalisable, et puis dans quelles conditions, avec quel mandat. Ça va être très intéressant à suivre.
On a beaucoup parlé, là j'ai interviewé des gens au bureau de vote qui votaient pour Shaw parce qu'il y avait aussi une ouverture sur la question de la racialisation et pour eux, elle représentait ça, cette ouverture, c'est la première mère non blanche.
Ouais.
Est-ce que tu crois que ça peut aussi jouer en faveur de la francophonie ou équilibrer avec aussi d'autres accès aux autres langues et aux autres cultures qui auraient envie d'avoir une voix au chapitre?
C'est une très bonne question. Je pense qu'elle s'est inscrite hier soir dans son discours comme la mairesse de tous les Torontois. On sait que Toronto, c'est une ville très, très diversifiée. Donc, ça sera intéressant de suivre son écoute vis-à-vis des minorités, quelles qu'elles soient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a vu que dans son parcours de député fédéral, de 2006 à 2014, elle accordait quand même une attention à ce type de questions. Puis il va falloir voir un peu comment est-ce qu'elle applique ça à Toronto et est-ce que ça va bénéficier aux francophones. C'est vrai que c'est une très bonne question et il faudra suivre ça.
C'était Marine Autogali dans le programme d'initiative journalisme local pour Choc FM 105.1.